Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Littérature.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Elisabeth Philippe, Laurent Nunez et Philippe Chevillier à notre sommaire. Les idiots d'abord, de Bernard Malamud chez Rivage, Prince de César Aïra chez Christian Bourgois, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, d'Alice Munro aux éditions de l'Olivier. Il y aura un coup de cœur de Laurent Nunez pour Louvre de Jocelyn Guillois au Seuil. Et nous ouvrons cette dispute avec les idiots d'abord, ce qui est assez logique. C'est le titre du livre de Bernard Malamud, publié chez Rivage, dans une traduction révisée par Georges et Solange Lalaine. Bernard Malamud, qui était l'un des écrivains préférés de Philip Roth, le Malamud lauréat de deux National Book Awards, premier lauréat du prix Pulitzer. Malamud qui reste encore trop peu connu en France, même si Rivage poursuit cette réédition de ses œuvres complètes avec un nouveau recueil de nouvelles où l'on croisera toutes sortes de petites gens dans des fables, à l'humour souvent mélancolique. Et puis on rencontrera aussi Fidelman, qu'on peut voir comme un doom de Malamud et qu'on retrouvera dans certains de ses romans. Alors c'est compliqué de choisir un extrait dans un livre, alors un extrait d'une nouvelle, on s'y est risqué. Et c'est une lecture de Boris Pinault.
Si je continue à préférer le noir, ce n'est pas que cette couleur m'ait porté chance, à quelques rares exceptions près. Même si le magasin de vin et spiritueux que je possède à Harlem, dans la 8e avenue, entre la 110e et la 111e rue, marche bien. Je parle en connaissance de cause. J'ai très souvent eu affaire à des noirs dans ma vie, sur le plan professionnel surtout, mais parfois aussi en raison d'une amitié réciproque et sincère. Ces gens-là m'attirent. À l'heure actuelle, je devrais avoir un ou deux bons amis noirs, et si ça n'a pas collé, ce n'est pas nécessairement de ma faute. S'ils avaient su ce que je ressentais pour eux. Mais comment expliquer ça à quiconque de nos jours? J'ai essayé plus d'une fois, mais le langage du cœur est une langue morte, ou alors une langue que personne ne comprend telle qu'on la parle. Très peu de gens, du moins. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que pour moi, personnellement, il n'existe qu'une seule couleur humaine, et c'est celle du sang. Si ce n'est pas parce qu'elle est noire que j'aime une personne noire, alors c'est parce que je suis blanc, ce qui revient au même. Si je n'étais pas blanc, je choisirais d'être noir. Je me satisfais d'être blanc parce que je n'ai pas le choix. Toujours est-il que j'ai un faible pour les gens de couleur. Je les apprécie. Qui aurait envie qu'on soit tous pareils ? C'est peut-être une sorte de don chez moi. Nat Lime a beau n'être qu'un marchand de vin et spiritueux à Harlem, il n'empêche qu'un jour, pendant la guerre, dans la jungle de Nouvelle-Guinée, en tirant sur un Japonais en fuite et en le manquant, l'idée m'est venue que je possédais une sorte de don. Même si, peut-être, c'est un don du genre à avoir une idée lumineuse par-ci par-là, mais ça mène à quoi en fin de compte? Notre monde est bien étrange, après tout.
Voilà pour cet extrait, bon, dont on va parler quand même, parce qu'il faut contextualiser tout cela. La prose de Malamud étant très particulière. Moi, j'en ai un fort goût. Premier tour de table, rapide d'abord, sur ce recueil de nouvelles de Bernard Malamud, de Laurent Nunez.
On rit autant de fois qu'il y a de nouvelles. C'est-à-dire vraiment, c'est ça, on rit.
Philippe Chevillier.
Ce sont des fables fulgurantes, lucides et implacables sur la rude condition humaine.
Elisabeth Philippe.
Oui, c'est un recueil un petit peu inégal, mais les meilleures nouvelles s'inscrivent vraiment dans la tradition, la meilleure tradition du conte yiddish.
Laurent Nunez, pour développer sur les idiots d'abord.
Oui, je me souviens qu'on avait fait ici le tonneau magique, on avait parlé il y a quelques mois.
On a fait le tonneau magique, disons que nous en avons parlé plus exactement.
Nous n'avons rien construit.
Et
j'avais le souvenir de quelque chose d'intéressant, mais j'ai oublié à quel point c'était drôle, Malamud. Et là, Il y a dans ces nouvelles, qui tiennent autant du conte que de l'histoire plus réaliste, vraiment des choses très très drôles, et que ce soit dès le début, dès le premier récit qui donne le titre du recueil, les idiots d'abord, cette histoire d'un vieil homme qui sent sa dernière heure arrivée et qui veut absolument que son fils un peu simplet en tout cas, parte au loin au soleil. Et il a une nuit pour faire ça, et il lui manque 25 ou 35 dollars. C'est terrible, parce qu'on sent, on sent la mort arriver, on sent tout, et en même temps, on peut pas s'empêcher de rire de la radinerie des gens, de ce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir faire et de ce qu'ils ne feront jamais, de ce rabbin et de sa femme, qui refusent de donner un simple manteau. Tout ça, c'est extrêmement drôle. Il y a une sorte d'humour, assez incroyable dans ces nouvelles. Mention spéciale pour moi, pour l'oiseau juif,
oui.
Je crois
qu'on a tous la même. J'étais voilà. En train de la rechercher dans mon exemplaire.
Mais qui est alors... un conte sur l'antisémitisme intériorisé peut-être.
Jusqu'à la chute qu'on ne dévoilera
voilà,
pas, évidemment.
Voilà. Qui est l'histoire d'une famille qui va recueillir, tant bien que mal, un corbeau. Qui est un corbeau, qui est peut-être une sorte de réincarnation ou quoi, qui est un animal, en tout cas, qui parle hébreu, visiblement, en plus. Et voilà, ils vont le garder, malgré le père, qui déteste l'animal et qui va tout faire pour l'envoyer à de Patres. C'est vraiment... on rit du début à la fin d'un rire qui est vraiment le rire de la lucidité. On rit parce qu'en fait, il a réussi à voir ce qu'il y avait à l'intérieur des êtres humains que nous sommes.
Philippe Chevillier, pour poursuivre sur Bernard Malamud.
Oui, partant de cet humour noir, parce que c'est vraiment, moi, c'est dans un premier temps, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment toute la noirceur qui m'a surpris.
Qui vous a accablé?
Qui m'a saisi, voilà. Ah. Et je me suis demandé comment c'était supportable de raconter tout cela. C'est à cause de cet humour, justement, et de cette humanité à travers le rire. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est... Bon, alors, évidemment, c'est d'une écriture incroyable, c'est d'une concision, ce sont des nouvelles très ramassées, très denses, hein, et en peu de traits, ça raconte à chaque fois tout un monde. Et finalement, c'est la variété aussi, parce que on a des nouvelles qui flirtent avec le fantastique ou le pur conte, comme l'oiseau juif, mais aussi comme la première nouvelle, qui est cette course contre la mort qui est un peu surréaliste. Il y en a d'autres qui pourraient être comme des chroniques de l'Amérique hyper réaliste, donc c'est la lecture de Boris Pinot tout à l'heure. J'ai toujours préféré le noir, où on voit le problème effectivement dans un quartier c'est à Harlem, le quartier noir, et un juif qui essaie désespérément d'avoir une love affair et ça se passe très mal, etc. Il y a une nouvelle aussi qui est très dure, je crois que c'est le coup de la vie, où on voit un homme avec son épicerie, qui va, la boutique d'à côté qui a déjà été rachetée, et puis la sienne, il sait que elle va souffrir de ce rachat et d'une chaîne qui va s'installer. Et du coup, il y a cette dimension-là. Il y a une dimension aussi baroque avec ce que raconte le personnage qui va devenir récurrent là de
Fidelman.
Fidelman, un nu tout nu. Où là, on est dans une histoire de copie de tableau, de malfrats. Ça se passe sur. Et alors, je trouve ce qui est intéressant, ce qui est amusant, c'est que les nouvelles américaines qui sont plus dans l'esprit donc de cet humour juif new-yorkais et en même temps de cette analyse des situations difficiles dans les quartiers pauvres. Les nouvelles italiennes, elles ouvrent...
Oui, parce qu'on a un certain nombre qui se passent en Italie.
Voilà, qui se passent à Rome. Et là, on est plus dans quelque chose sur les sentiments, sur l'impossibilité de l'amour.
Passion.
C'est sur la passion. Nature morte avec Fidelman, c'est assez terrible, quoi, avec ce personnage de peintre qui est une artiste. Une histoire complètement glauque d'amour, et puis lui, finalement, en tombe amoureux. C'est vraiment, on a l'impression que ces êtres ne peuvent pas communiquer. Et en même temps, il y a ce fond de drôlerie, d'humour noir qui tend tout ça. Et j'étais un peu long.
Oui, mais bon, c'est intéressant. De toute façon, Bernard Malamud, on a envie de vous entendre tous trois longuement. Elisabeth Philippe.
Effectivement, ce qui est très agréable dans ces nouvelles, c'est qu'on retrouve, en tout cas pour les lecteurs habitués à la prose de Malamud, on retrouve ce qui fait le charme un peu désuet, mais tellement plaisant de son univers. Donc, c'est ces thématiques de prédilection, les immigrés juifs aux États-Unis, ce charme un peu Middle Europa aussi, qui peut rappeler Benjamin Singer ou Saul Bellow. Et puis, moi, je ne connaissais pas. Et puis, encore dans ce qui fait la marque de fabrique de Malamud, il y a ce peuple de petits commerçants, souvent appelé cette population-là, des quartiers très mixtes où diverses communautés cohabitent, qui sont souvent les personnages principaux des nouvelles et des romans de Malamud. D'ailleurs, vous évoquiez, Philippe, la nouvelle Le coût de la vie, avec cette épicerie, cet épicier qui est désespéré en voyant qu'une nouvelle épicerie, évidemment bien plus moderne, avec des produits bien meilleurs, vient s'installer juste en face de chez lui. C'est plus ou moins la trame du roman Le commis, qui commence exactement comme ça et toujours et qui se poursuit tout aussi mal que cette nouvelle-là. Donc, effectivement, on voit les thèmes que Malamud travaille de livre en livre, de texte en texte. Moi, je ne connaissais pas cette partie italienne. En fait, le personnage de Fidelman, en fait, c'était un recueil de nouvelles qui s'appelait Portrait de Fidelman et je crois que c'est 7 ou 8 textes qui racontent, enfin, différentes histoires, donc de ce peintre américain qui est installé en Italie. Et effectivement, je trouve que ça ouvre l'univers de Malamud. Malamud, cet écrivain que Philippe Ross, donc qui admirait énormément cet auteur, il comparait quand même Malamud à un agent d'assurance. Il disait que voilà, quand on le voit comme ça, il paye pas vraiment de mine. Il a l'air un peu austère et les textes italiens sont quand même pleins d'une sensualité aussi, voire d'une sexualité. À laquelle on n'est pas forcément habitué chez Malamud, bien qu'elle soit aussi un peu présente dans, je pense, le roman que je préfère de lui, qui est Le Meilleur, qui a été le premier retraduit en France récemment par les éditions Rivage. Et il y avait cette dimension un peu plus sensuelle, finalement. Et ça, je trouve aussi que ça donne une variété de tons très, très plaisante dans la lecture de ce recueil.
Puis, je profite d'en citer une qu'on n'a pas encore citée, parce qu'elle est... Elle est... assurément plus mineur, Ils auront ma peau, mais c'est moi j'ai beaucoup de goût. C'est sans doute une des plus courtes du recueil, où c'est l'histoire d'un tailleur qui a deux employés, un polonais et un italien, un sicilien même, qui ne font que se chamailler, on va dire ça comme ça. Je laisse le soin aux éditrices auditeurs de découvrir la nouvelle par elle-même, mais elle est très courte, elle est implacable, elle est à la fois très drôle et terrible, parce que il s'y passe des choses terribles, et il y a une sorte aussi de condensé de l'art de Malamud. Alors, c'est pas le continuisme, c'est vrai que je suis un oiseau juif, enfin, c'est ce que répond le corbeau hein, quand on lui demande qui il est. Cette histoire-là, elle est absolument à la fois très forte sur son fond et irrésistible sur sa forme. Donc ça, c'est vraiment le Malamud à son plus haut. Mais même quand c'est apparemment plus mineur, il y a quand même une qualité à la fois d'écriture, de comment croquer un personnage effectivement en quelques mots à peine, une indication sur son physique, peut-être un adjectif pour un trait de caractère, et on y est tout de suite avec lui. Ça se développe évidemment dans les situations qui sont décrites, mais il est aussi capable de miniatures et de nouvelles plus longues, qui sont même parfois chapitrées, ce qui n'est pas si fréquent, des nouvelles chapitrées, qui donnent une grande faculté à entrer dans ces récits. Alors, Philippe Chevillier, vous qui avez l'habitude des disputes théâtre du lundi soir, vous n'avez pas manqué de remarquer, de vous intéresser aussi, c'est le cas des autres, qui vont pouvoir en parler.
Mariage en vue.
Alors, ça s'appelle Mariage en vue, et c'est ainsi qualifié scène d'une pièce. Donc, bon, on se débrouille avec ça. On a, comme il se doit, comme dans toute bonne édition théâtrale, une liste des personnages. Et rien que ça, en fait, j'aurais pu donner aussi cela à lire parce que ça donne pas mal de choses. Du Malamud au théâtre.
Oui, c'était, oui, comme j'avais été long, je me suis arrêté là, mais c'est vrai que c'est un des éléments aussi qui m'a étonné. Et alors, il y a un côté, on est un peu dans les codes d'Arthur Miller ou de les gens comme ça. Enfin, c'est une pièce un peu psychologique, mais En très peu de pages et en très peu de répliques, ouais. C'est aussi d'une férocité redoutable. Ouais. Hein, l'histoire de ce père acteur juif qui veut absolument que sa fille épouse un voisin qui lui paraît être plus philosophe cultivé que le fiancé de sa fille qui travaille dans une boutique d'articles de sport, je crois. Ouais. Il donne un peu dans les didascalies toute l'histoire, donc on sait comment ça va se passer. Et c'est vrai que les répliques, elles sont assez. Il y a la mère aussi qui participe. C'est vraiment cinglant, c'est d'une noirceur terrible. Et on dira pas la fin, mais il y a quand même une fin. Ça serait marrant de la voir représentée. Je me demande ce que ça donnerait.
Ouais. Elisabeth Philippe, qui connaît son Malamud sur le bout des ongles, il n'a pas écrit de pièce de théâtre à proprement parler, Malamud.
Alors,
à
là,
votre
vous
connaissance.
Piégez, je ne sais
ah non,
pas.
Non, je ne vous piège jamais. Je vous pose une question.
Eh bien, je n'ai pas la réponse, j'en suis.
Bon, on va lancer cette enquête. J'aurais pu enquêter moi-même. Laurent Nunez, quelques mots encore sur Bernard Malamud et les idiots d'abord.
Oui, en effet, ce mariage en vue est assez drôle parce que la forme change.
Un type de Feydeau, mais...
Alors c'est du Feydeau et au début on se dit, tiens, on va être en territoire conquis, on sait ce qu'est le théâtre. Or, la première réplique du père est en totale contradiction avec les didascalies qu'on a lues une page avant.
Tant qu'à faire. Hein.
Et donc on ne comprend plus rien. En fait, on comprend qu'en fait le père ne fait que jouer lui-même un rôle, qui récite un rôle qu'il a tenu il y a longtemps. Voilà, il y a une sorte d'humour comme ça. Et je voudrais revenir juste sur une nouvelle qui m'a beaucoup plu, c'est celle des deux artistes, La Nature Morte, parce qu'en film elle est incroyable. Elle serait incroyable. Deux artistes vivent ensemble, mais l'un est un homme, l'autre est une femme. Elle est très radine et très douée, en tout cas très prolifique. Lui, il l'aime et il ne sait rien faire. Il va enfin réussir à faire un portrait d'elle. Elle va se donner, si on peut dire ça, c'est très cru, hein. C'est assez drôle. Et elle va commencer à raconter. Et en effet, il y a de tout. On en est même, c'est une scène assez incroyable, où on est obligé de se déguiser pour avoir les confessions de quelqu'un. Malamud joue avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, les gens jouent des rôles partout, et si tu en as le bon rôle, si l'homme à la fin va se déguiser en curé, ce mémoire est bonne, et c'est à ce moment-là qu'il va avoir le fin mot de la femme.
C'est logique.
Il y a un humour là-dedans et vraiment ça c'est très brillant. Moi j'ai vu ça vraiment, ça m'a beaucoup intrigué, cette femme brillante mais froide, très très froide dans cet appartement, et cet homme qui essaye désespérément de lui plaire. Voilà, il y a un désespoir et un humour qui fait des ravages.
Philippe Chevillier.
Moi, je voulais juste parler de la dernière nouvelle qui est le réfugié allemand. Alors là, qui est pas dans l'humour du tout et qui vraiment. Je pense que pour exprimer les ravages du nazisme et de cette histoire d'Allemands qui se retrouvent au moment de la guerre, qui s'est exilé aux États-Unis, mais on a parfois cette image de gens qui se sont sauvés, et là on voit la difficulté il a du mal à apprendre la langue, il a du mal, et il a en tête tout ce qui se passe en Europe et tout ce qui est en train de se passer, et il n'arrive pas à dépasser ça, et je trouve que ça exprime en une fable quelque chose de beaucoup plus puissant et de vraiment, ça se termine comme ça. Et là, pour le coup, c'est assez plombant la fin du
recueil. Elisabeth Philippe, pour conclure.
Oui, en fait, tous les personnages de ce recueil sont des idiots, comme souvent chez Malamud. Tous, finalement, contraint une forme de résignation. Il y a une forme de fatalité, de fatalisme. Mais il n'y a pas de surplomb. Vous parliez de férocité. En même temps, il y a une empathie aussi. On n'est pas dupes que nous-mêmes, en lisant, on est nous-mêmes des idiots. C'est toute cette humanité, finalement. Et ça ressort aussi de ces textes. Et il y a également, dans la veine plus réaliste et italienne, cette nouvelle avec la bonne qui travaille chez un écrivain américain, et c'est dans plein de petits détails, les mégots qu'elle cache dans un tiroir, les chaussures qu'elle ne peut pas s'acheter, et puis cette histoire d'amour un peu pitoyable qu'elle mène avec un voisin. Enfin, ça passe par des toutes petites choses. C'est assez ténu finalement, l'art de Malamud, mais c'est d'une subtilité, d'une finesse incroyable.
Donc on vous invite à l'unanimité à découvrir, si c'est pas encore fait, Les Idiots d'abord de Bernard Malamud, édité chez Rivage, dans une traduction révisé par Georges et Solange Lalaine. À suivre dans la dispute, on va parler de César Aira, d'Alice Munro et de Jocelyn Guillois.
France Culture, la dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec, pour moi, une sensationnelle découverte. Alors, il était temps, puisque je veux parler de l'écrivain argentin César Eyra, né en 1949 et qui a déjà publié visiblement des dizaines et des dizaines de romans. J'ai lu dans certains articles plus de 100 romans. Alors, en plus, il n'écrit pas que des romans. Roberto Bolaño le tenait pour un des 3 ou 4, c'est la citation, un meilleur écrivain contemporain de langue espagnole, ça aurait dû m'amener plutôt vers ses livres. Eyra, il est également traducteur, essayiste, grand connaisseur de Rimbaud, Copy ou Mallarmé. Moi, je le découvre donc avec ce Prince. Prince, c'est le nom d'un architecte, on l'évoquera sans doute. Livre publié chez Christian Bourgois dans une traduction de Christine Avacero. On va y découvrir un célèbre auteur de romans gothiques qui décide d'arrêter d'écrire. Mais pourquoi faire ? Lecture par Lucille Como.
Tous les écrivains veulent arrêter d'écrire ce qu'ils écrivent, pour se sentir libres et commencer à bien écrire. Ils se leurrent tous, y compris moi. Je suis resté prisonnier de cet infini mesquin. Ma décision irrévocable tranchait le nœud d'un coup d'un seul. Je pouvais même faire d'une pierre 2 coups. 1. Mettre fin aux reproches qui me parvenaient du dehors et du dedans, puisque, en cessant d'écrire, je cessais aussi d'écrire de la merde. 2. Être heureux. Car la pratique de la littérature ne m'avait jamais procuré un véritable bonheur, du moins tel que j'entends cet état auquel nous aspirons tous. Le mien a toujours été entaché de doutes, d'inquiétudes, de découragements, ainsi que d'une tension permanente. L'idée que je me fais du bonheur est plutôt liée au calme, à l'absence de soucis et de travaux en cours. Y a-t-il quelque chose de plus contraire à cela que le métier d'écrire ? Écrire est un travail toujours en cours, car il faut continuer à écrire. On écrit pour continuer à écrire. Un mot est attendu par d'autres au sein d'une phrase, une phrase est attendue par d'autres au sein d'un paragraphe. Le présent flottant délicieusement entre passés et futurs, ce présent que j'identifie au bonheur, échappe toujours à l'écrivain. À moi d'autant plus, du fait de mes scrupules syntaxiques, de mes transitions en douceur et des belles asymétries sur lesquelles je fondais mes prétentions stylistiques. Pour couronner le tout, j'étais soumis à une tension supplémentaire, devoir tout faire en secret. Comme si de rien n'était, car si les lecteurs venaient à percevoir le moindre relent de littérature, ils prenaient leurs jambes à leur cou. Cesser d'écrire, pour toujours. Liquider la dette pérenne de l'écriture. Voilà qui me laissait la liberté de m'organiser dans un seul but, me sentir bien. Il ne me restait qu'à trouver la bonne occupation de substitution. Probablement était-elle à portée de main, cachée dans la grande encyclopédie du monde. Je n'avais qu'à tourner ces pages une à une, et en profiter pour me distraire en regardant les images.
Voilà, un extrait qui se situe plutôt au début du livre, parce qu'après ça aurait été compliqué. On va l'évoquer. Premier sentiment sur ce Prince de César Eyra, Philippe Chevillet.
Une fumerie littéraire délirante et réjouissante.
Elisabeth Philippe.
C'est la drogue idéale parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire et c'est un vrai trip méta-gothique.
Laurent Nunez.
Comme Baudelaire a beaucoup écrit sur l'opium aussi, je dirais au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau.
En effet. Bon, on va essayer de développer. Divulgacher sera dur hein, parce que quand même il se passe suffisamment de choses et c'est suffisamment complexe. On pourrait hein, résumer à grands traits, on ne va pas le faire tout à fait, mais entrer davantage dans ce livre. Philippe Chevillet.
Alors, comme point de départ, je vais pas raconter tout le livre, là. J'aurais mal, mais j'aimerais bien. Mais cela dit, bon, ça démarre de façon, effectivement, on l'a vu, assez simple. Cet écrivain qui écrit des livres gothiques, il en a marre des donjons, des jeunes filles emprisonnées avec des méchants châtelains qui les condamnent à prison, des douves, des chevaliers. Et, il en a marre de pas avoir été un bon écrivain. Et évidemment, il étudie toutes les hypothèses, on ne sait pas trop lesquelles d'ailleurs, mais finalement, il choisit de s'adonner à l'opium, c'est évident. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a l'impression que l'opium, il a déjà été pris avant que le livre commence.
C'est possible.
Et on se demande après si c'est l'écrivain, le narrateur, ou si l'encre du livre ne serait pas imprégnée d'un peu de substance, parce qu'on ne sait plus très bien où on en est. Mais en même temps, c'est vrai que on flotte un peu tout le temps dans ce livre, que c'est un livre de non-sens latin, mais on peut pas tout à fait parler d'écriture automatique, c'est parce que en fait on a toujours l'impression, on va nulle part, on a l'impression d'aller quelque part toujours, c'est-à-dire que le délire est finalement très ordonné. L'illogisme est construit de façon logique. On passe d'un point à un autre et il y a toujours des explications totalement absurdes. Mais moi, il y a un truc qui m'a beaucoup amusé, c'est quand on nous explique pourquoi. Alors, il faudrait raconter l'histoire, mais à un moment donné, on nous parle d'Antiquité et pourquoi il a voulu se vouer à l'Antiquité. Et il ne sait pas pourquoi il a arrêté, ce qu'il a bloqué dans cette recherche. Et en fait, il réalise que c'est parce que c'est l'ordre chronologique des dates est inversé quand on.
Ouais, c'est génial. C'est pas avant. Quand on compte avant la naissance du Christ. Et que moins 50 soit après moins 60. Je partage totalement. C'est un frère de sang pour moi. Je vous le dis.
Et alors, il y a des trucs, mais parfois, c'est des détails. Dans des fois, moi, ça me fait rire. C'est, donc, quand il va chercher de l'opium, il en ramène, c'est pas un petit sachet, hein, il tombe sur une espèce de bloc.
Gros comme une machine à laver,
Gros comme une machine à laver. Et, il faut donc qu'il soit accompagné. Il est accompagné en voiture. Et il sait pas du tout où il va avec la voiture. Alors, et il dit « En attendant, vu l'orageuse navigation nocturne qui était la nôtre, je préférais le voir concentré sur le volant et me suis donc abstenu de lui donner du grain à moudre. Moi aussi, j'étais concentré, même si j'avais bien du mal à retrouver ma route. J'ai pourtant continué à le guider, car mes indications avaient beau être fausses, c'était mieux que rien. »
C'est implacable.
Implacable.
Elisabeth Philippe sur Prince de Cesareira.
Oui, c'est très 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 impressionnant, c'est-à-dire que ce qui est formidable avec ce roman, c'est qu'il ne cesse à la fois de s'auto-détruire et de s'auto-engendrer. Il ouvre constamment de nouvelles portes, alors on pourrait parler des portes de la perception, mais il y a ce côté-là, c'est-à-dire que à chaque fois on pense qu'on arrive à tel endroit et en fait non, pas du tout, on ouvre encore une porte sur une autre dimension possible et ça je trouve ça absolument fascinant. Et pour autant, il y a sa logique interne, c'est-à-dire que c'est à la fois absurde, mais c'est ce que disait très bien Philippe, il y a une forme de logique interne. Et alors évidemment, c'est un peu facile dès que c'est un auteur argentin de parler de Borges, mais c'est vrai je parlais de dimension métagothique, c'est vrai que cet auteur... donc d'ailleurs, on aimerait que certains de ses confrères suivent la même... se disent aussi qu'il faudrait qu'ils arrêtent d'écrire.
Ouais. Vous avez des noms.
Des vocations. Donc c'est quand même un auteur à succès. Et parmi ces romans qui ont rencontré un très large public, eh bien il y a Le Moine, qui est le moine de Lewis, Le Château d'Otrante. Enfin bref, tous les livres dont il dit être l'auteur sont les grands titres, les grands romans de la littérature gothique, les grands classiques de la littérature gothique. Donc il y a évidemment ce côté borgésien et ce côté méta littéraire qui est assez amusant. Mais en fait, c'est un peu comme ce gros bloc d'opium qu'il acquiert donc dans cette boutique appelée l'Antiquité. Ce roman, on peut le découper en plein de petits morceaux et découvrir énormément de strates différentes. Il y a évidemment une lecture mythologique qu'on peut faire parce qu'au départ, il y a presque un côté oedipien avec ce personnage qui part dans l'Antiquité, donc ce lieu qui est aussi une époque. Il y a toujours un mélange entre le temps et l'espace qui se dilate, se contracte constamment au fur et à mesure de la lecture. Et puis il y a cette créature qu'il croise qui va lui donner l'indication pour savoir où trouver de l'opium, qui s'appelle l'hermine, qu'il va consulter dans un parc de nuit. Et là on peut voir un parallèle avec le sphinx, donc on a cette piste un peu mythologique. Et puis il y a aussi le récit initiatique, puisque comment trouver la drogue. Et il y a également une lecture psychanalytique qui à mon sens est peut-être la plus opérante aussi, puisque encore une fois il y a ces portes qui s'ouvrent constamment, ces narrations qui s'enchaînent les unes aux autres et qui sont vraiment comme des plongées de plus en plus en profondeur dans l'inconscient. Et puis ce qui peut nous mettre sur cette piste, et notamment le personnage féminin aussi que croise le narrateur, dont on ne comprend pas bien si elle vient du passé, du présent, puisqu'il y a toujours un télescopage des temporalités. Et évidemment, ce personnage s'appelle Alicia, donc on pense aussi à Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, tout ça, on a l'impression qu'on tombe dans l'espèce de chaudron, la marmite de l'écrivain, tout ce qui va l'inspirer, les rêves, la réalité, l'inconscient. Conscient, et on a vraiment l'impression que c'est une plongée dans ce chaudron créatif en fait. Voilà, ça fait partie des multiples charmes de ce livre qui est parce que c'est un tout petit livre. Et c'est vraiment le bloc d'opium, là c'est l'inverse. C'est un tout petit livre, mais ça crée des visions à n'en plus finir. Et c'est une expérience assez intéressante.
Laurent Nunez sur ce livre de César Eyra.
Moi, quand je vous entendais parler, je bondis sur ma chaise parce que je voulais absolument parler de ce livre en premier. J'étais hyper excité par
cette découverte. C'est Philippe Chevigny qui l'a proposé. Merci Philippe. Voilà ce qu'on doit dire. Merci Philippe Chevigny.
C'était une découverte. Ah ouais. J'ai été tellement séduit.
Ça fait longtemps que j'ai pas découvert un auteur de ce niveau-là.
tellement emballé. D'ailleurs, à un moment, je me suis demandé si c'était vraiment une traduction, parce que pour moi, je l'ai lu, mais comme c'était du pur français, c'est extrêmement bien traduit.
Christine Vassero.
L'histoire est... moi, je veux bien divulgâcher. De toute façon, ça n'a aucun... on ne comprend rien. C'est l'histoire d'un homme qui est tellement riche parce qu'il écrit des romans gothiques qui cartonnent, mais qui sont nuls, qui décide de vivre pleinement et donc il décide de prendre de l'opium. Déjà, ça colle pas. Il apprend tout d'un coup, grâce à l'hermine, qu'il faut aller dans l'Antiquité et donc prendre le bus 126 qui mène à Hong Kong.
106.
Qui mène à Hong Kong.
Quand on et le là, gâche, il... on est précis, monsieur.
Et ça, voilà. Et là, en effet, donc il achète.
Dans le bus, il y a Alicia, par ailleurs.
Il achète de l'opium qui fait, hélas, la taille d'un lave-vaisselle, d'un lave-linge. Avec un problème, c'est qu'il y a une clé au fond. Parce que comme on perd tous les clés, voilà, autant mettre la clé au fond de l'opium. Voilà. On n'y comprend rien. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a une liberté. Mais alors, j'ai dit comme ça, vous savez, il y a un courant américain qui est l'anti-mimétisme. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore en France, et j'ai l'impression que ce livre en est plein. Vous savez, on a beau écrire ce qu'on veut, se libérer de la grammaire ou du monde ou quoi, on est obligé quand même, à un moment, de suivre le réel. C'est-à-dire, je lance un verre, il va tomber. Voilà, quand quelqu'un meurt dans un livre, il ne peut pas le lendemain aller au travail. Ça arrive dans certains livres de Blanchot, à un moment, c'est vrai. Mais tout d'un coup, là-dedans, on ne sait absolument pas ce qui va se passer à la phrase d'après. Il n'y a plus de réel, du coup, il ne copie plus le réel, il fait ce qu'il veut, et du coup, il obtient ce qu'il veut, puisqu'il voulait. Peut-être que nos vies, c'était ces romans gothiques, où on obéit, et c'est là que la psychanalyse est là, peut-être qu'en fait, on obéit simplement à des schémas répétitifs dans nos vies, et que lui-même, tout d'un coup, il trouve le moyen, c'est sa psychanalyse, ce texte, il trouve le moyen d'avoir une nouvelle vie et il nous emmène là-dedans. C'est vraiment, on comprend hein, qu'il soit un très bon connaisseur de Rimbaud, vous le disiez, parce que Rimbaud, c'est ça, il faut être absolument moderne. On a là-dedans, moi j'ai été vraiment épaté, séduit, j'ai presque envie de le relire ce week-end, parce que je suis sûr que j'ai manqué des choses. C'est normalement avec un livre, on s'enferme on est contre la parole d'un auteur qui fait autorité, c'est la racine, quoi. Là, au contraire, moi, j'y trouve une sorte de liberté, de surréalisme, qui fait un bien fou, et on sent que c'est pas complètement imaginaire, c'est-à-dire que c'est pas gratuit. Tout est là, tout est posé, tout est construit. C'est vraiment... Je suis très surpris que ce livre n'ait eu aucun prix d'automne. Je comprends pas.
C'est stupéfiant.
Alors, il est quand même souvent César Herrera pressenti pour le Nobel. Il fait partie.
Ouais, mais enfin, les pressentis pour le Nobel, la liste est longue, hélas.
Mais il n'est pas totalement en dehors des radars.
Tant mieux. Mais non, mais c'est un livre que j'ai envie d'offrir à tout le monde. Voilà. On a envie de partager un trésor pareil. Il y a toutes ces dimensions-là. Il y en a encore 150 autres qu'on n'a pas évoquées. Et notamment, quand même, tout ce qui est de la réflexion sur l'écriture. On l'entendait d'ailleurs dans l'extrait. Il nous fait sourire, mais on entend des choses d'une justesse, d'une clarté, d'une limpidité absolue. Mais la limpidité que donne l'opium, notamment au narrateur de ces livres, il y a quand même des descriptions, les premières fois qu'il prend l'opium, qui sont absolument saisissantes sur, en fait, d'une réflexion de ce que c'est que l'écriture, ce que c'était son écriture à lui, d'écrire toujours au passé, que l'opium, c'est absolument du présent, et que ça donne aux mots un poids très différent, que le présent, je vais essayer de lire un tout petit passage, les noms étaient affaires de convention, les mots en général étaient affaires de convention, ils n'étaient reliés aux choses que par l'habitude. L'opium les attirait dans ces tourbillons de pensée, le mot se cognait contre une image, l'image rebondissait contre un autre mot, et tout cela avait littéralement lieu à cause de l'opium. Il me fallait mettre cet adverbe à la fin de chaque phrase que je prononçais. Il est l'heure de manger littéralement, il faudrait passer l'aspirateur littéralement, sinon je risquais d'être mal compris par les autres, mais aussi par moi-même. Enfin, il y a une, ça continue longtemps, même si le livre est en effet pas très épais. Il y a une sorte de tourbillon de pensée et de réflexion. J'ai envie de m'arrêter à chaque page. C'est vrai que ça donne très envie non seulement de le faire lire aux gens qu'on aime, mais aussi de le relire soi-même, parce qu'on y verra beaucoup d'autres choses à chaque fois. Elisabeth Philippe?
Oui, non, mais dans le passage que vous venez de lire, il y a effectivement cette dimension très importante et en fait qui sous-tend tout le livre. C'est ce duel permanent entre le mot et les choses, entre le réel et l'imaginaire. Et c'est cette lutte qui donne lieu à ces explosions d'images Laurent parlait de la construction, c'est vrai que c'est l'architecture aussi de ce texte qui est complètement folle.
Oui, alors
et qui en fait un livre vraiment gothique, parce que qu'est-ce qui est très important dans un livre gothique? C'est la maison. On le sait bien, c'est toujours des maisons hantées, des châteaux, des manoirs. Et là, la maison est un élément essentiel aussi de ce roman, mais le livre lui-même devient une maison gothique. Et ça, je trouve ça formidable aussi.
Et ce qui donne son titre, hein, Prince, absolument. C'est le nom d'Arturo Prince, donc un architecte argentin qui avait conçu cet édifice de style gothique qui est un des sièges de la faculté d'ingénierie de Buenos Aires. C'est un bâtiment jamais achevé, il y a une note en fin de volume, a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Philippe Chevillier.
Et d'ailleurs, il imagine que dans ce lieu, dans cette faculté, il imagine une scène de rencontre avec Alicia, ouais. Imaginant que c'est l'étudiante qu'il a connue et qu'il a aimée plus jeune, qui est digne d'un roman gothique avec des cadavres dans les tiroirs, si je puis dire, ou dans les placards. Et donc là, on a le roman qui est en train de se... et le personnage qui est en train de s'auto-dévorer, puisque les personnages sont tous assez étonnants entre lui, l'huissier, philosophe, vrai faux philosophe, le personnage est un peu ce châtelain arrogant, méprisant pour les femmes, méprisant pour les pauvres. Ça se cogne avec la réalité, et cette impression que finalement ce qui est le plus ridicule et le plus irréel, c'est le réel. Et ce qui donne un peu d'ordre à tout ça, c'est l'opium. Et il y a des pages sur l'opium d'ailleurs qui sont intéressantes au début aussi, sur des livres d'enfants. Enfin, on ne s'arrête plus quand on commence à en parler de ce livre.
C'est... Laurent Nunez, on va s'arrêter, mais dans quelques instants encore.
Vous l'avez dit, en fait, pour ceux qui aiment écrire ou quoi, on apprend des choses passionnantes. Et initialement, je me suis dit, encore un livre d'écrivain. Vous savez, par exemple, j'ai lu récemment qu'il y a à peu près, de cette rentrée littéraire, il y a 10% des livres qui étaient faits, où le personnage était soit un prof, soit un écrivain. Ce qui est un peu démesuré. Et ici, en fait, ça fonctionne complètement parce que réécrire sa vie ou réécrire un nouveau livre, il arrive à mêler ça, parfaitement. Et même si on n'est pas intéressé par le désir d'écrire, il y a quand même un désir à la fois d'être à la fois autre, c'est-à-dire complètement soi. Et ça, c'est complètement nouveau dans ce que j'ai lu. C'est vraiment un livre qui est à la fois entre les dialogues de Borges et Misérable Miracle. Vous savez, le livre sur la mescaline, c'est vraiment un livre passionnant, mais pour tout le monde, vraiment pour tout le monde.
Oui, et puis il y a quand même à la toute fin de ce livre une recette. On n'en dit pas plus, non. Je fais un peu d'aguichage pour nos auditrices et auditeurs, pour que vraiment elles et ils sachent qu'il faut lire César Aira. Prince, alors il y en a vraiment une centaine de romans de Prince, vous croyez? Philippe Chevillier, vous qui avez proposé, vous avez mené l'enquête. Il y en a un certain nombre déjà aux éditions Christian Bourgoin, de nombreuses années.
Beaucoup,
il y en avait chez Gallimard avant,
40,
je crois.
Je pense qu'il y en a une vingtaine qui sont traduites en français, en tout cas une vingtaine, 10 qui doivent être chez Bourgoin. Et j'ai le souvenir, alors, et ça c'est étrange, parce que j'ai le souvenir d'avoir deux ou trois absolument extraordinaires, dont je ne me rappelle absolument pas ce qu'il raconte, mais qui m'avait laissé des impressions. Alors,
celui avec les fantômes dans l'immeuble en construction.
Peut-être.
Il y a la famille de fantômes et la famille de gens qui squattent l'immeuble en construction, pareil à Buenos Aires, et c'est extrêmement drôle.
Il a un titre, peut-être.
Je sais plus si c'est Les Fantômes, justement, ce qui serait tout à fait possible, ou Les Nuits de Flores. J'ai un doute.
À vérifier. Bon, enfin, déjà, vous pouvez commencer, comme Laurent Nunez et moi, par celui-ci, Prince, et vous serez contaminé. La traduction, je l'ai dit, mais je le redis évidemment, est assurée par Christina Vassero de ce texte publié chez Christian Bourgoin. C'est l'heure du coup de cœur. Laurent Nunez, c'est à vous pour nous parler d'un livre de Jocelyn Guillouat qui s'appelle L'Ouvre au seuil.
Oui, L'Ouvre, c'est un premier roman que j'ai beaucoup aimé, au titre très sobre, alors qu'il est foisonnant, puisque dedans il y a des milliers et des milliers d'œuvres d'art. C'est une histoire très simple, très vraie. On est à l'automne 39, et Jacques Jogard, qui est le directeur du Louvre à l'époque, va tenter de protéger les œuvres d'art. Les œuvres d'art qu'il sent bien que les Allemands ont envie de posséder, comme butin de guerre. Il anticipe leur pillage et il décide d'emmener tout Alors dans ce tout, vous imaginez ce qu'il y a. C'est vraiment de la Victoire de Samothrace à Mona Lisa, en passant par toutes les antiquités grecques, romaines, etc. C'est des dizaines de camions à cochons qui, la nuit, tout feu éteint, roulent, et ils roulent vers où ? Vers Chambord. Voilà, on décide de tout cacher dans ce château de Chambord, qui est déjà une merveille, et qui est donc une merveille qui va contenir d'autres merveilles, tout ce qui n'a pas de prix. Et il a eu du flair, puisque très vite, les Allemands vont envahir le Louvre et s'intéresser d'ailleurs au bâtiment pour faire quelque chose dans l'Antiquité égyptienne, dans les salles d'Antiquité égyptienne. On ne sait pas très bien quoi, et c'est un mystère dans le livre. C'est donc un livre qui se passe principalement à Chambord, parce que voilà, Jagar qui lutte tout d'un coup contre les incendies, contre les brigands, contre le chaos, hein, tout d'un coup dans cette France occupée. Et en même temps, c'est un livre sur la vie, parce qu'en fait, il est découpé de trois parties, en trois journaux intimes sur trois femmes, en fait, qui tournent autour de la vie de ce directeur du Louvre. Il y a Marcel, la femme de Jogar, qui admire démesurément et peut-être trop son mari. Carmen, sa jeune nièce, qui ne sait pas quoi faire de sa vie amoureuse. Et puis Jeanne, la maîtresse de Jacques, qui cherche à comprendre ce que font les Allemands dans le Louvre depuis qu'ils l'ont occupé. Ah, il faut ajouter ça aussi, la femme de Jogar voudrait avoir un enfant, sa nièce croit qu'elle est enceinte et sa maîtresse voudrait avorter. Donc c'est un livre en fait sur la vie, en fait, sur comment sauver le passé et comment aller vers l'avenir, aller essayer de construire une vie vraiment. C'est un livre de collapsologue, c'est un livre de survivaliste. Vous savez, voilà. Comment on fait quand on voit que le chaos va venir?
Et tout ça dans un livre qui m'a pas l'air si épais que cela, parce que là encore, c'est tout un monde. Hein. Le Louvre, tout court, pas le Louvre, mais Louvre de Jocelyn Guillois, édité au Seuil.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier livre à notre sommaire, on va dire si on l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, c'est son titre. Il est signé Alice Munro, il est publié aux éditions de l'Olivier dans une traduction d'Agnès de Sarthe. Elle est née en 1931, Alice Munro, elle a reçu, cette autrice canadienne, le prix Nobel de littérature en 2013, l'Académie avait ainsi justifié son prix, je fais une citation. Alice Munro est appréciée pour l'art subtil de la nouvelle, empreinte d'un style clair et de réalisme psychologique. On trouve souvent dans ses textes des descriptions d'événements quotidiens, mais décisifs, sorte d'épiphanie qui éclaire l'histoire ambiante et illumine au flash les questions existentielles. Non, toujours qui rédige ces notations des Nobel, mais parce qu'il y a un style très particulier. Mais il y a beaucoup de choses très très vraies et on va en parler après avoir écouté à nouveau Lucille Comeau nous lire un extrait d'une nouvelle d'Alice Munro.
Alors que je marchais depuis une heure, je vis un drugstore ouvert. J'entrais boire une tasse de café. Le café était réchauffé, noir et amer. Son goût était médicinal, exactement ce qu'il me fallait. Je me sentais déjà soulagée et voilà que je commençais même à me sentir heureuse. Quel bonheur d'être seule. De voir la lumière chaude de la fin d'après-midi baigner le trottoir à l'extérieur. Les branches d'un arbre dont les feuilles venaient de naître jeter leurs ombres dansantes. D'entendre depuis l'arrière-boutique la rumeur du match de baseball que le garçon qui m'avait servi écoutait à la radio. Je ne songeais pas à la nouvelle que j'écrirais à propos d'Alfrida, pas à cela en particulier, mais au travail que je voulais accomplir, qui consistait davantage à saisir les choses flottant dans l'air jusqu'à construire des histoires. Les cris de la foule me parvenaient, semblables à de gros battements de cœur, emplis de chagrin, des vagues ravissantes et parfaitement formelles, avec leurs lamentations, leurs accords distants et presque inhumains. C'était cela que je voulais. C'était ce à quoi je devais prêter attention, pensais-je. C'était à cela que je voulais que ma vie ressemble.
Voilà pour cet extrait d'une nouvelle d'Alice Munro. Dans ce recueil, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Lucie, donc, par Lucille Comeau, c'est la fin d'une des nouvelles de ce volume. Et c'est un moment finalement assez rare dans les nouvelles d'Alice Munro. La nouvelle s'appelle Le mobilier familial, où elle parle d'écriture, parce que pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'écrivains ni de profs dans les nouvelles d'Alice Munro, mais il y a des gens à qui il arrive des petites choses qui ont souvent de grandes conséquences. Premier commentaire sur ce recueil de nouvelles d'Alice Munro, un premier tour de table, Elisabeth Philippe.
Avec ses nouvelles en poupée russe, la Canadienne Alice Munro prouve qu'elle n'a rien à prouver, rien à envier, pardon, à Tchekhov, le maître du genre.
Carrément. Ouais. Laurent Nunez.
La traduction est nouvelle, mais les idées sont datées.
Oui. Philippe Chevillé.
Moi, je trouve que ce sont des vibrants portraits de femmes et une traversée ultra sensible des existences et des apparences.
Bon, on va avoir un peu de dissensus, parce que là, c'est vrai que c'était un concert de louanges depuis le début, mais c'est la qualité de ce sommaire qui nous l'impose. Moi, je suis dans le camp majoritaire, hein, concernant Alice Munro. On l'aura déjà compris. Elisabeth Philippe, pour développer votre pensée.
Oui, alors donc moi je l'aime plutôt passionnément à la folie que pas du tout, hein, pour reprendre le titre de ce recueil. Un autre recueil d'Alice Munro porte le titre de Fugitive, et je pense que c'est l'un des thèmes en fait qui lie la plupart des textes de cette écrivaine, puisqu'il est souvent question de femmes qui fuit souvent le domicile conjugal, une vie étriquée, des conventions. Je pense que la plupart des textes se situent dans les années 70-80, c'est pas daté, donc c'est assez difficile, mais il y a quelques marqueurs temporels qui laissent penser ce genre de choses. Il y a des expériences psychédéliques qui sont faites par certains des personnages, la description des vêtements ou des mobiliers laisse penser qu'on est à peu près dans ces dates-là. Et c'est vrai qu'il y a encore tout le poids d'une société patriarcale qui pèse sur ces femmes. Et c'est tout cela qu'elles cherchent à fuir les unes les autres. Alors vous disiez que l'extrait qu'on a entendu parlait d'une femme écrivain. Il y en a quelques-unes. Je pense que c'est souvent les nouvelles à la première personne qui doivent être un peu autobiographique, en tout cas on peut le deviner. Et en fait, ce qui est extraordinaire, vraiment, moi, ce qui me laisse bouche bée devant ces nouvelles, c'est leur construction. Une fois de plus, je parlais de poupées russes. C'était pas simplement pour faire un bon mot avec Tchekhov et cette comparaison, mais ce qui est stupéfiant réellement, c'est la façon dont Alice Munro, chacune de ces nouvelles, en contient au moins 10. En fait, il y a chaque histoire ouvre sur une autre histoire, et c'est par un art très très consommé de la bifurcation comment d'un personnage elle parvient à glisser sur un autre, et chaque personnage est développé, pensé, décrit, et je trouve ça absolument fabuleux, vraiment. Et en fait, je pense que ce qui fait d'elle une grande autrice de nouvelles et vraiment une figure éminente de ce genre littéraire, c'est non pas son art de la chute. Souvent, on peut penser que ce qui fait vraiment la force d'une nouvelle, c'est l'art du dénouement, de la chute, la surprise. Elle, c'est pas du tout ça qui l'intéresse. Et j'en veux pour preuve la nouvelle qui ouvre le recueil, qui donne d'ailleurs son titre au recueil. Au départ, on pourrait penser que ça va être une nouvelle assez cruelle. Moi, je pensais un peu à La Parure de Maupassant, où un bon tour serait joué à cette pauvre gouvernante qui quitte tout sa situation par amour. Et vraiment, j'avais l'impression que la fin, ce serait sa désillusion ou pas, mais quelque chose qui me rappelait un peu la Parure de Maupassant. Et en fait, c'est pas du tout ça qui intéresse Alice Munro, c'est pas le coup de théâtre, tout ça, elle le déjoue. C'est vraiment de pouvoir développer les sentiments, les méandres psychologiques par lesquels passent ces personnages. Et en fait, oui, je parlais de fugitive au début de cette intervention, mais c'est vrai que tous ces personnages sont constamment en déplacement, déplacement dans l'espace et déplacement dans le temps. Et en fait, ce qui est là aussi proprement sidérant avec Munro, c'est la densité, l'épaisseur temporelle qu'elle donne à ces très très courts textes, où vraiment, qui peuvent couvrir des décennies, des vies entières, et en cela, je trouve que c'est tout à fait remarquable et très très agréable à lire aussi. Il y a une précision de la langue qui est tout à fait délectable.
Alors, on va avoir enfin dans cette dispute à 19h51 une voix qui va être un peu différente sur ce recueil d'Alice Munro, celle de Laurent Nunez.
Oui, c'est un recueil. C'est la traduction qui est nouvelle. Le recueil n'est pas neuf en lui-même, puisqu'il y avait déjà une traduction en 2004-2005 par là, mais et je l'avais lu et j'avais pas beaucoup aimé, la traduction était très étrange, et là c'est le moins qu'on puisse dire, on va dire ça comme ça, et là ils l'ont refait et en fait non, c'est pas la traduction qui m'avait dérangé, c'est les thèmes, c'est-à-dire qu'il y a dans ce livre vraiment une, alors je sais que c'est lié à l'époque des nouvelles, mais une vision de la femme, des problèmes essentiellement féminins sur le mariage, sur le passé, sur la fuite qui est impossible, sur le fait qu'on n'arrive pas à se séparer de sa famille ni des meubles familiaux. Chez moi, enfin, il y a eu un ennui, mais alors colossal, je vous l'avoue. Hein, je
sais pas. C'est vrai que c'est toujours actif, hein, ces problématiques.
Bah, j'aimerais bien que non. Alors, mais alors, comment vous dire, est-ce que peut-être, ça m'a l'air tellement daté. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'absence d'espoir qui, à part peut-être en Queenie, peut-être.
C'est vrai qu'on vit dans une période pleine d'espoir. Mais taquine un petit peu Laurent, mais.
Mais les livres ne sont pas obligés de suivre le réel. Non,
j'entends bien.
Mais vous voyez ce que je veux dire. Ben, pour moi, les femmes dans ce recueil sont enfermées dans des situations. Il y a aucune situation de femme moderne. J'ai l'impression que tout est tellement ancien que moi, ça m'a un peu déprimé.
Bon, alors que ça vous déprime, c'est une chose, mais je mets vraiment là vos réserves.
Parce que c'est quand même la façon dont ces situations sont décrites qui compte. On soit amené à lire des situations qui n'existent plus ou qui sont datées, ça nous arrive constamment.
Oui. Et puis je suis pas sûr que ce soit le cas là, en l'occurrence, mais et puis que ce soit son thème. Si on reprochait à Raymond Carver d'écrire sur la solitude des hommes de 50 ans dans leur petite vie, bon, allez, Philippe Chevillier qui ne s'est pas encore exprimé.
Ah ben, d'abord, j'aime beaucoup la première nouvelle qui a un côté un peu western canadien, je sais pas, et peut-être que moi je l'ai pris plus avec un dénouement, mais le dénouement qu'on n'attendait pas.
Voilà.
Donc voilà, ça donne le là d'une construction, d'une forme de malice dans les personnages. On a une intrigue qui est assez forte. Et puis derrière, effectivement, il y a les bosses et il y a les creux. Et dans les creux, c'est très intéressant parce que les personnages ont une psychologie. Moi, ça me gêne pas. Je comprends bien ce que veut dire Laurent sur le fait que ça soit centré peut-être sur une époque, puis sur une terre que finalement le Canada, on en a des clichés. Là, on en voit une version un petit peu plus rustique et rude. Mmh. Et moi, ça m'intéresse. Surtout que ces portraits de femmes, ils sont, c'est quand même des femmes très différentes à différents âges de leur vie. Il y a les ados, il y a des femmes qui meurent, il y a des femmes je trouve qu'il y a. Ce qui est très beau, c'est ces moments où tout d'un coup, un peu en suspens, c'est le cas du pont flottant où il y a cette femme qui est malade et qui tout d'un coup, il va y avoir ce moment dans la nuit d'un baiser volé et là on décolle.
Ouais, bah, juste pour c'est celle que je voulais citer. Le pont flottant, ça commence par cette phrase une fois, virgule, elle l'avait quitté. Non, mais il y a une façon quand même de plonger immédiatement à ce qui laisse Laurent Nunez dubitatif. Je laisse poursuivre Philippe Chevillier.
Je ne plonge pas.
Et alors là, je suis d'accord, évidemment, je reviens au théâtre un peu, mais sur Tchekhov, parce qu'il y a cette dimension à la fois au premier degré qui est assez littérale, une description du quotidien qui peut apparaître très simple, très basique, et puis on a tout d'un coup ces éclairs qui s'échappent de la psychologie des personnages, la psychologie de ces femmes, le petit trait qui va faire que tout d'un coup tout va basculer. Moi, je trouve que les histoires d'amour sont très belles quand elles sont réussies, pas souvent, mais bon, c'est par exemple les orties, c'est l'histoire d'un premier amour, et la façon par exemple dont s'exprime la sensualité cette adolescente qui ressent, qui sait pas comment l'exprimer, mais qui ressent l'amour, je trouve ça très beau. Il y a cette histoire assez terrible, je crois que c'est dans Ceux qui restent, où on trouve cette femme qui va avoir un amant médecin de juste une fois et qui va garder ce souvenir et qui va le rebâtir ensuite. Je trouve que ce sont des scènes très fortes qui, alors du coup, on est parti d'un lieu et d'une époque, mais après ça décolle et on est dans l'existence, et dans l'existence très sensible d'être. Moi, ça m'intéresse. Voilà.
Bon, dans la minute qui nous reste, on va la confier à Elisabeth Philippe, si vous n'avez pas d'inconvénient, Laurent, pour finir sur une belle note.
Finir sur une belle note, oui, vous parliez du pont flottant qui est effectivement une très très belle nouvelle, et je trouve que c'est peut-être dans ce texte-là qu'on est au plus près des sensations et de l'art d'Alice Munro, et c'est vrai que c'est une nouvelle se déroule par une journée de très très forte chaleur et les personnages sont enfermés dans une voiture et le personnage de femme, l'héroïne, est malade, mais vraiment très gravement malade et ne souhaite pas se joindre à l'apéritif qui se déroule ailleurs et elle va donc s'enfuir et se retrouver sur ce pont flottant de nuit et on éprouve littéralement la sensation de fraîcheur que lui apporte cette nuit, le baiser de ce jeune homme. Bon, tout ça est très beau et non, c'est fini.
Ça y est, c'est fini. Mais Laurent Nunez demande la parole, mais c'est pour dire quelque chose de gentil. Hein, je vous préviens, Laurent. Sinon, vous aurez un blâme.
Très rapidement. La chose que j'aime, le dernier auprès de ma blonde, qui est une très belle histoire sur la maladie et sur Alzheimer et qui a donné lieu à un film très beau, Loin d'elle.
Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. C'est le titre de ce recueil de nouvelles d'Alice Munro, publié aux éditions de l'Olivier dans une traduction d'Agnès de Sarthe. Vu l'heure, passons directement au jeu du soir avec David Dana qui nous a rejoint. Ce soir, on fait gagner des invitations pour le spectacle La Vie de Galilée, les 24 ou 30 novembre au Théâtre des Célestins à Lyon. Quelle est la question, David ?
Quel réalisateur a adapté La Vie de Galilée au cinéma ?
Mais moi, je ne le savais pas parce que j'ai lu la réponse par-dessus votre épaule. Si vous le savez, vous nous écrivez avec vos coordonnées postales indiquées, bien sûr, et vous nous envoyez un courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et David Dana. Prise de son ce soir, Élise Le, réalisation Émilie Vallard. Rendez-vous demain à 19h, dispute cinéma avec Lucille Como, Corinne Rondeau, Jean-Christophe Ferrari. Nous parlerons de J'accuse, de Roman Polanski, de Donnie Darko, de Richard Kelly qui ressort en DVD, Le Mans 66 de James Mangold et un coup de cœur de Jean-Christophe Ferrari pour Noura Rêve d'Inde Boudjema.
France Culture. L'esprit d'ouverture.